7h, 10h. William DeCosta.
Un nouveau face-à-face à venir pour Donald Trump. Demain, le président américain doit recevoir Volodymyr Zelensky, son homologue ukrainien, après avoir reçu en grande pompe, on s'en souvient, Vladimir Poutine en Alaska, le président russe. Bonjour Loïc Loury.
Bonjour.
Correspondant de France Info à New York. Pour l'heure, l'avantage n'est pas côté ukrainien. Donald Trump a surtout semblé épouser les vues du Kremlin ces dernières heures et le milliardaire rejette en particulier l'impératif d'un cessez-le-feu en Ukraine.
Oui, Donald Trump s'était posé en Alaska avec l'idée d'arracher un accord de cessez-le-feu, mais Vladimir Poutine l'a visiblement convaincu de l'inverse. La meilleure façon de mettre fin à la guerre, écrit le milliardaire, c'est d'aller directement à un accord de paix. La nuance est importante, l'Ukraine et les Européens, eux, poussent pour un cessez-le-feu préalable, tout le contraire des Russes qui réclament un accord de paix général consacré, selon l'expression du Kremlin, aux causes profondes de la guerre et qui comprendrait des annexions de territoires. C'est cela que Vladimir Poutine a donc mis dans la tête de Donald Trump, qui désormais tente de vendre l'idée aux Européens. Tout cela pendant que Moscou gagne du temps et pousse son avantage sur le terrain. Le président américain, en contrepartie, semble prêt à offrir des garanties de sécurité à Kiev, inspirées du principe de défense mutuelle de l'OTAN, mais sans adhésion à l'organisation.
Donald Trump qui a quitté l'Alaska en laissant derrière lui, Loïc, une petite polémique.
C'est la radio NPR qui révèle l'affaire. Une liasse de documents officiels plus ou moins confidentiels ont été laissés dans une imprimante d'un hôtel d'Anchorage, découvert par des clients. On y trouve le menu du déjeuner qui devait être servi lors du sommet, salade verte, filet mignon et crème brûlée. Il y est aussi fait référence à un cadeau, la statue d'un aigle offerte à Vladimir Poutine. Et on y trouve surtout un protocole du sommet, ainsi qu'une liste de noms et de numéros de téléphone de responsables des deux pays. Cette polémique ne devrait pas passer le cap du week-end et la Maison-Blanche joue l'indifférence, mais avec cette affaire, l'administration Trump, qui n'en est pas à sa première fuite, prête encore le flanc aux railleries, voire au procès en incompétence. En mars, un journaliste s'était notamment retrouvé inclus dans un groupe de discussion top secret consacré à des frappes militaires au Yémen.
Merci Loïc Loury, correspondant à New York de France Info. Et bonjour Jean-Dominique Giuliani.
Bonjour.
Politologue, président de la Fondation Robert Schuman, merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Après ce sommet en Alaska, les Européens continuent de s'activer aujourd'hui avec une nouvelle réunion en visio de la coalition des volontaires, les alliés de Kiev en clair, dont la France, qui serait prête à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. Dans ce dossier, après ce sommet en Alaska, est-ce que les Européens, ils ont encore une carte à jouer ?
Bah, écoutez, non seulement ils ont une carte à jouer, mais c'est eux qui jouent en réalité, puisque tout le monde reconnaît l'échec de la démarche de Donald Trump, puisqu'il s'est aligné sur les positions russes, et qu'il ne peut y avoir de paix en Ukraine sans l'accord des Ukrainiens. Or, les Européens sont solidaires des Ukrainiens. Regardez le mouvement de Trump en disant « je peux apporter des garanties de sécurité ». C'est une exigence européenne. Quelle garantie de sécurité ? On ne voit pas très bien ce que les Américains pourraient faire. La seule garantie de sécurité, ce serait d'envoyer des troupes américaines en Ukraine, ce que Donald Trump ne fera pas et que la Russie n'acceptera jamais. Donc, si vous voulez, au-delà du show permanent de Trump pour cacher sa préférence pour Poutine, sa mauvaise analyse, il est persuadé que la grande puissance nucléaire de la Russie va gagner la guerre alors qu'elle l'a déjà perdue en réalité, puisqu'elle n'a atteint aucun de ses objectifs. Donc une grave erreur, et contrairement aux analyses un peu rapides, je trouve que les Européens marque une unité et une solidarité très forte en disant aucune frontière en Europe ne peut être changée par la force.
Pourtant, Donald Trump semble se ranger du côté de Vladimir Poutine pour un accord de paix qui inclurait des annexions de territoires. Et ça, est-ce que les Européens peuvent l'accepter au risque que ça puisse se répéter à l'avenir avec d'autres pays européens ?
Non, c'est inacceptable puisqu'ils sont directement concernés. Alors, on a bien vu surgir apparemment dans le sommet, la promesse par Poutine de ne pas attaquer l'Europe. On croit rêver, si vous voulez. D'abord parce que la Russie ne respecte aucun de ses engagements, à commencer de respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine pris en 1994 et donc violé délibérément.
Quand l'Ukraine avait rendu aussi les armes nucléaires qui appartenaient à l'Union soviétique à la Russie. En échange, il y avait des garanties de sécurité russes et américaines.
Américaines, britanniques et chinoises. Et donc la France était partenaire à ce aussi de ce protocole. Donc, si vous voulez, Emmanuel Macron l'a rappelé hier, on ne peut pas faire confiance à la Russie, elle ne cesse de violer ses engagements, et donc Poutine a convaincu Trump qu'il restait une grande puissance, ce qui n'est pas le cas des Européens qui considèrent que la Russie est affaiblie, et malgré ses armes nucléaires, mérite une 19e liste de sanctions que les Européens sont en train de préparer.
C'est en préparation, exactement, un 19e train de sanctions contre la Russie. Est-ce que ces sanctions, elles portent leurs fruits? On sait que ça nuit d'une certaine manière à l'économie européenne, mais est-ce que ça nuit beaucoup, beaucoup plus à celle de la Russie?
Si ce n'était pas le cas, les Russes ne demanderaient pas en permanence de les lever. Donc, bien sûr qu'elles fonctionnent. Elles ont contribué à isoler l'économie russe, mais aussi la diplomatie russe. Et malheureusement, le président américain, en recevant un criminel de guerre sur son territoire, a cru réintroduire Vladimir Poutine dans le jeu international, ce qui n'est aujourd'hui plus le cas ni pour l'Europe, ni pour le Brésil, ni pour d'autres nations émergentes. Poutine est criminel recherché par la Cour pénale internationale. C'est donc tout à fait désolant de voir le président américain se prêter à son jeu.
On parlait des sanctions européennes, Jean-Dominique Giuliani, avec ce 19e train de sanctions qui est en cours de préparation. Donald Trump, avant le sommet en Alaska, menaçait d'imposer éventuellement de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Il n'en est plus question. Il l'a d'ailleurs écarté dans une interview donnée à Fox News après ce sommet, en tout cas le temps des négociations, des discussions avec la Russie. Si l'Europe met ses sanctions, mais que la première puissance mondiale, elle, n'accentue pas la pression, est-ce que ça peut vraiment marcher?
La première puissance mondiale sur le plan économique, ce ne sont pas les États-Unis, n'est-ce pas? Je rappelle que l'Europe a une économie qui n'est plus puissante que celle des Américains. Vous parlez de la première puissance militaire, ça reste les États-Unis. Donc les sanctions européennes font beaucoup plus mal qu'on ne le croit à la Russie, parce que le commerce avec la Russie était bien plus développé en Europe que de la part des États-Unis. Non. Donald Trump est en train de se tromper complètement sur l'analyse. Si les Européens maintiennent leurs sanctions et les accroissent, ça fera très mal à l'économie russe, qui fait évidemment semblant de ne rien ressentir, qui a une résilience très forte, c'est exact, mais qui quand même souffre énormément.
Jean-Dominique Giuliani, justement, vous parliez des États-Unis qui ne sont pas la première puissance économique, c'est l'Europe, en tout cas l'Union européenne. Mais les États-Unis, eux, c'est dans leur nom, ils sont unis. Les Européens, beaucoup moins. On voit que Viktor Orban, par exemple, homme fort de la Hongrie, s'oppose souvent à des mesures contre la Russie. Est-ce que ça n'obère pas un petit peu la capacité de l'Europe à répondre et à être forte face à Moscou?
Si, évidemment, vous avez raison. Enfin, quand la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, la Pologne et d'autres États membres se mettent d'accord sur quelque chose, croyez-moi, ça pèse. Et d'ailleurs, ça pèse puisque ça embarrasse le président américain qui aimerait bien en finir avec la guerre aux conditions de Poutine. Donc oui, bien sûr, c'est plus compliqué. Mais là, ce que je constate, c'est qu'en dehors de Vladimir Orban, qui a une position tout à fait singulière, Européens sont unis. Oui, bien sûr.
Merci Jean-Dominique Giuliani, politologue, président de la Fondation Robert Schuman, d'avoir été avec nous ce matin sur France Info, alors que, je le rappelle, une réunion est prévue cet après-midi entre la coalition des volontaires, dont la France, les alliés de Kiev, une visioconférence avant un sommet demain entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, à Washington.
France Info.